Voilà, il faut aussi que les cloches se taisent. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et c'est une bénédiction d'être réunis ce matin dans la diversité de nos âges, dans la diversité de nos parcours de vie et de foi. Ici, il y a des frères et des sœurs, ni des grands frères, ni des petites sœurs, seulement des frères et des sœurs qui ont tous la même infinie valeur devant Dieu. Oui, qu'il est bon ce temps de culte où la présence des uns et des autres est offerte aux uns et aux autres comme le don d'une huile parfumée, d'une rosée rafraîchissante, un pur bonheur où s'épanouit le présent et où s'éclaire l'avenir. C'est une bénédiction qui coule et se dépose en nous dans la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de chanter le premier spontané de ce culte, comme nous sommes en panne de feuilles de culte, merci, si vous voyez que votre voisin n'en a pas, de partager avec lui. Si vous êtes à deux, de suivre avec un pour deux, pour que tout le monde puisse quand même avoir la possibilité de suivre le déroulement du culte. Donc voilà, n'hésitez pas à faire circuler les feuilles pour ceux qui en ont besoin. Et si vous n'en avez pas, manifestez-vous aussi. Voilà. Donc nous nous levons pour chanter « Écoute-nous, Dieu de la terre », le premier spontané. Vous pouvez vous asseoir, parce qu'avant la louange, il y aura quelque chose, rien que pour les enfants qui sont là, mais évidemment, les grandes personnes y auront droit aussi, mais c'est d'abord pour les enfants. Les enfants de l'école biblique ont un thème d'année qui est « Frères et sœurs ». Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, le texte qui portera la prédication du culte est une parabole d'un des évangiles et une parabole qui parle de frères, qui raconte une histoire de frères. Alors, j'ai une autre histoire de frères à vous raconter. Quelques-uns d'entre vous la connaissent déjà. Ce sont donc deux frères qui vivent sur la même ferme, la même propriété agricole dont ils se partagent les revenus à part égale parce qu'ils l'ont hérité de leurs parents. C'est une ferme où ils produisent du grain, des céréales. Et donc, de part égale, deux frères qui habitent dans deux maisons séparées à la ferme. Un des frères est marié et il a 5 enfants. Une belle famille. L'autre frère vit tout seul. Il est célibataire et il n'a pas d'enfants. Au bout de quelque temps, un des frères commence à avoir des insomnies. Il se réveille la nuit et il se dit « Ah, c'est quand même vraiment pas juste. Moi, j'ai une épouse, 5 enfants, mon frère est tout seul et nous avons exactement la même part de grains. Mais mon frère qui est tout seul, quand il sera vieux, il n'aura personne pour s'occuper de lui. Qui lui apportera ses repas? Qui veillera sur lui? Il faut absolument que je l'aide à préparer son grand âge. » Alors le frère, qui a une famille, se lève la nuit, il va dans sa grange, il prend un sac de grains et il l'amène dans la grange de son frère. Pour l'aider, pour ses vieux jours. Au même moment, l'autre frère, celui qui est célibataire, a aussi des insomnies. Et il se réveille et au milieu de la nuit, il se dit « Mais c'est quand même pas juste !» Moi, je suis tout seul. Mon frère a 5 enfants et une épouse et nous avons les mêmes parts de grains. Mais lui, il a toute cette famille à entretenir. Et puis ses enfants, il faut qu'il les nourrisse bien, peut-être qu'il faut qu'il leur paye des études. Alors quand même, c'est pas juste, je vais l'aider. Il se lève la nuit, il va dans sa grange, il prend un sac de grains et il l'amène dans la grange de son frère. Et comme ça, plusieurs nuits. Mais bien sûr, un jour, enfin une nuit, arrive ce qui devait arriver. Les deux frères se rencontrent en pleine nuit, chacun avec son sac de grains sur le dos. Des années plus tard, après la mort des deux frères, l'histoire se sait. Elle est connue dans le village. Et c'est un village où un jour les habitants veulent construire un temple pour se rassembler, pour célébrer. Et ils ont choisi pour bâtir le temple l'endroit où les deux frères s'étaient rencontrés de nuit. Parce que pour eux, c'était le plus bel endroit pour construire le temple qui les rassemblerait. Voilà l'histoire. Vous en ferez ce que vous voudrez. Et je vous invite à vous lever pour entendre la louange et à vous y associer de tout cœur. Éternel, nous te disons merci pour les vivants qui ont traversé la terre depuis l'aube des temps et qui la traversent aujourd'hui en y laissant une empreinte d'humanité. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre et dont les paroles de pardon, les gestes d'amour, les actes de courage, les chansons d'espoir et de joie sont parvenus jusqu'à nous et nous permettent de tenir debout dans l'existence. Merci pour les vivants qui traversent la terre éclairés par ta parole et qui nous en révèlent la lumière, la bonté. Merci pour les vivants qui traversent notre vie en déposant de la tendresse dans le déroulement de nos jours. Sans eux, notre existence resterait une longue marche solitaire et vide. Merci pour leur amour, leur présence et leur regard. Ils nous font naître à la vie chaque jour. Merci pour l'espérance que tu enracines en nous grâce à Jésus le vivant, ton Fils, notre frère, passeur de lumière et de vie à travers toutes les nuits et toutes les morts. Amen. Et je vous invite à chanter au psaume 19, les strophes 1, 3 et 4 du psaume 19 qui s'appelle « Le ciel étincelant » et c'est un beau nom, un beau titre. « C'est rattrapé. Prenez place et les enfants vont maintenant regagner leur salle pour leur séance de ce jour. Nous écouterons la volonté de Dieu pour nos vies avec ces deux versets de l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui parle. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la compassion et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Sur moi ta clarté vienne luire. Je vous invite à vous rassembler dans la prière de confession dans laquelle Abel, qui est le catéchumène présent aujourd'hui, va nous conduire. Nous prions.
Parfois, j'ai besoin de quelqu'un qui me montre le chemin que je peux suivre et dont la trace m'aide à avancer. Montre-moi le chemin éternel. Je ne veux pas me perdre. Parfois, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire signe, pour attirer mon attention, pour m'indiquer l'horizon. Montre-moi le chemin éternel. Je ne veux pas me perdre. Parfois, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'enthousiasmer, dont la fantaisie est contagieuse, dont les pas soient fermes et légers. Montre-moi le chemin éternel. Je ne veux pas me perdre. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Il est l'harmonie du monde. Il est la lumière dans la nuit. Il est la porte qui s'ouvre pour nous. Il est l'inconnu qui surgit. Il est l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est notre vie. Il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre sauveur en cet instant. Amen. Et nous chanterons au cantique 267. Adorons tous le Seigneur. place. Notre Dieu, nous te prions avant de lire dans la Bible. Par ton esprit, ta présence est déjà dans nos cœurs. Et nous ne te dirions pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Parle-nous, nous t'écoutons. Amen. Et nous nous mettons à l'écoute de la parole de vie à travers ce texte de l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les versets 11 à 32. Jésus dit encore : un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître ses cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim ?» Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau gras. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau gras. » Le père lui dit « « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » « C'est certainement une des paraboles les plus connues des évangiles, qui a donné lieu à un très grand nombre d'interprétations en commentaires, en prédications, en peinture, en littérature. Ainsi, lorsque nous en avons parlé avec Abel et Jacob au Caté, il y a quelques semaines, nous l'avons lu avec l'appui de plusieurs représentations picturales de diverses époques, de styles très très différents. Et la plus appréciée que nous avons suivie dans la lecture du texte était l'interprétation de Rembrandt. Vous l'avez peut-être déjà vu, ce grand tableau du retour du fils prodigue, qui rend si bien la misère du fils cadet, misère visible dans chaque détail de son vêtement troué, de ses sandales éculées, de sa tête rasée, de son visage estompé à moitié enfoui dans le giron de son père. Le fils aîné, là aussi, raide, sévère, dans une attitude absolument fermée, comme un juge impitoyable du frère et du père. Le père, lui, a l'expression si douce, le visage si lumineux. Son corps est incurvé comme un berceau pour accueillir son fils revenu. Et il a posé ses mains sur les épaules de son enfant, une main d'homme et une main de femme. Il est vrai que le récit manque de figures féminines. Pas de mère, pas de sœur, seulement des prostituées, mais comme un mot craché par le fils aîné sur son frère cadet pour le rejeter à bonne distance d'indignité. Rembrandt fait du père un père-mère aux entrailles frémissantes et prête à mettre à nouveau au monde familial le fils qui était mort. Reste que cette maison est quand même une maison d'hommes. Même le serviteur sur le tableau de Rembrandt et dans le texte est un serviteur, et lorsque Rembrandt représente dans son tableau un ami du fils, c'est un ami. Alors l'audace du peintre à tirer par la main le père vers la mère ne pallie pas vraiment le manque du récit, qui n'est d'ailleurs pas le seul. Tant de choses manquent dans ce que raconte cette parabole, et tous ces manques s'accumulent au fil de chaque description, de chaque prise de parole, d'un bout à l'autre du récit. Commençons par le fils cadet, celui qui réclame sa part. Littéralement, c'est sa part d'existence. La part d'existence qui doit lui revenir. Il la réclame parce que visiblement, pour lui, il lui manque de quoi vivre sa vie comme il l'entend. Vous connaissez certainement cela. Vivre de manière indépendante, par soi-même, c'est une aspiration assez largement partagée et l'on peut s'y essayer de différentes manières. Celle du fils cadet est en deux étapes, réclamer et couper les ponts. Il part dans un pays lointain. Ce faisant, il manque quand même un peu de gratitude envers son père, à qui quand même il doit de pouvoir partir vivre sa vie. C'est plus facile de partir vivre sa vie avec des poches remplies. Mais quelle vie ! Puisque le voici bientôt sans un sou, en ayant tout dilapidé. Son aspiration a dérivé et s'est échouée en gaspillage, en plaisir, en satisfaction immédiate, en relation médiatisée par l'argent. Alors la famine survenant, le fils cadet manque de tout et doit s'attacher, quasiment se coller, à un habitant de ce pays étranger. L'indépendance est largement hors de portée. La liberté, celle qu'il voulait, a disparu avant avec l'argent, mais était-ce vraiment la liberté? Le fils cadet se retrouve à garder des cochons bien mieux nourris que lui. Il se retrouve moins bien traité qu'un cochon. Un manque d'humanité qui l'affecte gravement. Il se retrouve, enfin non, il ne se retrouve pas. Il est perdu. Il s'est perdu. Il manque de tout et il a tout manqué. Vivre sa vie, être libre, indépendant, son rêve, être maître de son destin. Toute manière dont on peut désigner cette aspiration bien partagée, mais dont il a manqué non seulement la réalisation, mais surtout le sens véritable. Mais il en reste pourtant quelque chose en lui, de cette aspiration. Un petit peu qui vibre, qui frémit, et c'est ce qui le fait rentrer en lui-même, en quête d'une ressource intérieure. Et là, il n'en manque pas. Il trouve l'idée. Il décide de retourner dans la maison de son père. S'il a manqué d'être un fils, il pourra toujours être un serviteur bien nourri. C'est un retour un peu intéressé quand même. Il s'agit de vivre, non plus de manière indépendante, mais de manière assurée, en ayant assez à manger. Il y a autre chose. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Mais quel est ce péché? Souvenons-nous que le verbe « pécher » signifie littéralement « manquer la cible ». Et nous voyons bien ce que le cadet a manqué. Il a manqué sa vie. Il s'est manqué lui-même. Et c'est ainsi qu'il a péché contre le ciel, manière de parler de Dieu, Dieu qui appelle chacun à vivre de vie vivante et à devenir humain en plénitude. Le fils cadet a manqué cela. Et puis il a aussi manqué à l'avenir que son père avait ouvert pour lui, déjà par la naissance, le fait qu'il soit né, et par la part d'héritage que le père lui avait donnée. Cependant, ce péché-là, ce ratage de cible, fait-il un coupable qui devrait expier, ou fait-il un homme malheureux? Le fils cadet, lui, se juge indigne de rester un fils. C'est aussi la vie du frère aîné. Il juge de la même manière le fils de son père, celui dont il ne veut plus pour frère, celui dont il ne veut plus être le frère. Le fils aîné manque un peu de compassion. Mais c'est parce qu'il est jaloux. Et la jalousie est un moteur extrêmement puissant et néfaste dans nos existences humaines. Les Écritures le signalent dès le livre de la Genèse au chapitre 4 avec Caïn, dont la jalousie, la colère et la violence qui vont avec, et comme les griffes de la bête tapies à la porte de son cœur, cette bête monstrueuse qui est le péché, lui dit l'Éternel qui l'avertit. Mais le péché fait manquer à Caïn la fraternité, la parole, la vie, et il tue son frère. Le fils aîné de la parabole est jaloux. Il voit ce que son frère a eu comme lui manquant à lui. Il ne se voit qu'en fonction de l'autre, mais en défaut et en manque par rapport à son cadet. C'est que le fils aîné compte, et surtout ce qu'il n'a pas, et qu'il pense avoir mérité, parce qu'il est lui dans une logique de donnant-donnant, de rétribution. Et c'est cela qui lui fait manquer sa place de fils. Il se comporte comme un ouvrier, un esclave, méritant une récompense. Alors, la fête préparée par le père pour le retour du cadet lui fit considérer son père comme un patron injuste. Cette fête provoque en lui le sentiment que le père et le fils de son père lui ont gâché sa vie. Et c'est insupportable. Il est en colère. Il ne veut pas rentrer, il ne bouge pas, il campe sur son quant à soi. Mais son quant à soi, ce n'est pas lui. Le père, lui aussi, manque beaucoup de choses. Lorsque son fils cadet lui demande sa part d'existence, il lui donne sa part d'héritage, des biens. Mais était-ce vraiment ce que son fils lui demandait? Pas vraiment. Bon, il le donne et il laisse partir son fils sans rien dire. Il le laisse faire, comme il laisse faire son fils aîné, le laissant se comporter comme un esclave et se laissant considérer lui comme le maître, le patron de son fils. Il ne voit donc rien, ce père. Il n'écoute rien. Il ne parle donc jamais à ses enfants. Et lorsque le cadet revient, ce fils qui lui manque, il court vers lui, il l'embrasse et il ne le laisse quasiment pas parler. Il lui coupe la parole pour le saturer d'attention, l'envelopper dans la plus belle robe, le gaver de veau gras, l'étourdir de musique et de danse. Mais il ne l'écoute pas. Et à la colère de l'aîné, il répond aussi par une saturation. « Tout ce qui est à moi est à toi. » Mais un fils n'est pas son père. Un fils n'est pas comme son père. Ce père, tout tendre et aimant qu'il soit, manque d'offrir à ses enfants l'espace suffisant pour qu'ils vivent leur vie à eux, qu'ils découvrent qui ils sont. Et puis, il y a un dernier manque dans ce récit. Il n'est pas terminé. Il manque la fin. Que vont faire le fils aîné, le fils cadet et le père? Dans les différentes éditions des Bibles, cette parabole porte différents titres. Parabole du fils prodigue, parabole du fils perdu et retrouvé, parabole du père prodigue. Mais il est possible finalement d'ajouter un autre titre. Je vous propose la parabole des manques et pourtant. Et le « et pourtant » fait aussi partie du titre. Le fils cadet a manqué sa vie et pourtant il a pu rentrer en lui-même et puis retourner vers la maison de son père où il a trouvé l'accueil tendre et la fête pour la joie de son retour. Le père a manqué l'espace, l'écart qui laisse les enfants vivre leur vie et pourtant il accueille le cadet sans reproche et il sort pour chercher son fils aîné. Le fils aîné manque sa juste place de fils et pourtant il peut dire ce qui l'étouffe. Et alors peut-être pourra-t-il maîtriser la jalousie, dompter la colère, se mettre à son tour en mouvement, ne pas faire comme Caïn, devenir un frère pour son frère. La parabole n'est pas terminée. Il y a encore un avenir pour chacun et pour l'ensemble. Il y a des relations à composer encore, à clarifier, dans la reconnaissance de l'autre et de soi. Malgré tous les manques et les ratés accumulés, il y a les élans de vie intérieure qui mettent en mouvement les dynamiques vers lesquelles on va vers autrui, les fidélités qui demeurent à travers le temps et les distances, les accueils gratuits, gracieux, les joies, la joie des fêtes célébrées parce qu'on est ensemble et qu'on se retrouve. Et dans tout cela, élan de vie, dynamique, fidélité, accueil, joie, Dieu est là, malgré tout ce qui manque, tout ce qui rate, Dieu est là, heureusement. Nos relations sont emmêlées avec nos aveuglements, nos déformations, nos rêves. Et pourtant, nos bonnes raisons et nos justifications sont enchevêtrées avec nos fragilités, nos manques, nos idéaux. Et pourtant, Dieu n'attend pas que la bonté soit pure, que les quêtes soient purifiées, que l'aspiration à la vie soit débarrassée de toute scorie. Il n'attend pas, heureusement. Dieu n'attend pas que le chemin soit complètement déblayé, balayé vers le cœur et l'âme de chacun. Il n'attend pas que la place soit nette dans l'intériorité de notre être pour inspirer, pour insuffler, pour insister. Heureusement, l'histoire n'est pas close. Il y a encore de quoi devenir. Il y a encore la liberté de chercher et d'essayer. Il y a encore la joie d'être trouvé. Parce que c'est bien pour cela que Jésus raconte cette parabole et deux autres petites paraboles qui la précèdent, pour dire la joie qu'il y a dans le ciel pour ces manquants, ces ratés, ces perdus, ces pécheurs qui, mangeant avec lui, ont reçu leur part d'encore, de grâce et de vie. La joie qu'il y a dans le ciel n'y est certes pas enfermée à double tour. Dieu pourtant, Dieu malgré, Dieu encore. Ce ne sont pas des mots très prestigieux, ni très brillants, ni très impressionnants pour parler de Dieu. Cependant, ils suffisent pour dire la trace divine dans l'existence du fils cadet, du fils aîné, du père et dans chacune de nos vies. Amen. une feuille. Je vous invite à vous lever pour entendre la confession de foi qu'Abel va dire et je vous invite à vous y associer de tout votre cœur.
Nous croyons en Dieu qui a envoyé Jésus-Christ marcher sur les chemins où personne n'allait plus, pour y trouver les hommes et les femmes que personne ne regardait plus. Nous croyons en Dieu qui a envoyé Jésus-Christ parler aux hommes et aux femmes auxquels personne ne parlait plus, et tendre la main là où l'on fermait le poing. Nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde et auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons au Dieu de Jésus-Christ qui nous envoie, nous aussi, marcher sur les chemins de la rencontre, regarder les hommes et les femmes de notre monde, dire des paroles qui relèvent, faire œuvre de paix. Nous croyons au Dieu dont le souffle nous met en marche. Amen.
Annonce à faire aujourd'hui, comme tous les dimanches en fait. La collecte alimentaire pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge est ouverte avant et après le culte et vous pouvez toujours consulter la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. Elle est affichée dans l'entrée du temple. Vous pouvez aussi apporter d'autres produits, des alimentaires non périssables, hygiène ou entretien. Je voudrais aussi signaler qu'après le culte, Valentin, qui est là, tu veux bien te lever ? Voilà, c'est toi. Voilà. Valentin aura à disposition de ceux qui souhaitent en acheter des exemplaires des deux ouvrages édités par le Foyer de l'âme et qui ont été présentés dimanche dernier après l'Assemblée Générale, Jean-Jacques Rousseau et Dieu. Et Spinoza est Dieu, donc vous pourrez vous rapprocher de lui si vous souhaitez en faire l'acquisition. Et puis, après le culte, il y aura l'Assemblée Générale de l'Entraide du Foyer de l'Âme, donc cette association dont, finalement, nous considérons que vous êtes tous les bénévoles, puisqu'il ne s'agit pas seulement de cotiser, mais aussi voilà, d'accompagner les différentes actions que l'entraide organise et propose. Et il y en a quand même un certain nombre. Donc l'Assemblée Générale aura lieu après le culte et il y aura au cours de cette Assemblée Générale des élections avec un élargissement du comité de l'entraide du Foyer de l'Âme. Et comme c'est indiqué là sur ma page, je n'oublie pas de vous annoncer que dimanche prochain, c'est le changement d'heure. Donc, n'oubliez pas, parce que dimanche prochain, c'est le culte de Pâques. Un culte avec partage de la scène, bien sûr. Et puis, nous aurons aussi la joie d'entourer Karl Sigwald, qui fera sa confirmation. Il n'y a pas que les jeunes qui fassent leur confirmation. Il y a aussi des adultes, parce que pour eux, le moment est venu. Et c'est le cas pour Karl. Mais avant, dans la semaine, il y aura une réunion du bureau du nouveau conseil presbytéral, mardi à 17h30. Jeudi 28 à 12h30, ce sera la pause spirituelle, comme tous les jeudis. Et comme nous entrons dans la semaine précédant Pâques, eh bien, il y aura jeudi 28 à 19h ici, la veillée de Jeudi Saint. Nous partagerons la scène également et la méditation sera apportée par la pasteure Agnès Adeline Schaeffer. Vendredi 29 à 19h, nous pourrons nous retrouver à l'oratoire, puisque nos amis de l'oratoire viendront ici jeudi. Nous irons à l'oratoire vendredi à 19h pour la veillée du Vendredi Saint, lors de laquelle j'apporterai la méditation. Et puis le culte de Pâques que j'ai déjà annoncé. Il y a une autre annonce qu'Isabelle Veillé va venir nous faire, conseillère toute nouvellement élue.
Merci. Alors, je voulais vous inviter à noter dès à présent la date du samedi 4 mai, parce qu'entre Pâques et les vacances, on ne va pas nécessairement être tous là tout le temps. Le samedi 4 mai, il y aura un grand rassemblement régional de notre Église, qui se tiendra dans le parc du temple de Boissy-Saint-Léger, entre le temple et le collège Bernard Palissy. C'est accessible en RER plus un petit quart d'heure à pied. Alors, ce sera une grande journée dans laquelle, autour des enjeux du dérèglement climatique, de l'écologie, de la justice sociale et de la foi, une journée d'information, de rencontres, de fêtes, de prières. Il y en aura pour tous les goûts, pour les familles. Il y aura des conférences, des débats, des films, de la méditation en forêt, un atelier d'argile, des jeux bibliques pour les petits et les grands, un grand jeu en forêt pour les enfants et adolescents avec les éclaireuses et éclaireurs qui seront présents. Voilà, beaucoup de choses, de la musique. On vient quand on veut, quand on peut. C'est entre 10h et 21h. Alors, toutes les informations, vous pouvez les retrouver soit sur le site de la région. Donc, pour ceux qui sont équipés, il y a un QR code sur le tract et sur l'affiche qui est dans le hall. Pour d'autres, on vous redonnera les informations un petit peu plus au fur et à mesure. Voilà, grand rassemblement de tout le monde et opportunité du coup de rencontrer des paroissiens de d'autres paroisses de la région parisienne, sans oublier que notre région parisienne, ce n'est pas juste l'Île-de-France administrative, mais ça va jusqu'à Château-Thierry, Troyes, Auxerre, Nevers, Dreux, Chartres. Et donc autour de l'écologie, il y aura aussi des agriculteurs bio paroissiens, etc., et d'autres, et des chefs d'entreprise, beaucoup de personnes très différentes, donc occasion de rencontre. On apporte son repas et de quoi pouvoir s'asseoir dans l'herbe, et on espère que le temps sera de la partie. Voilà pour tous. Donc samedi 4 mai. Et puis, s'il y en a qui ne veulent pas faire le voyage en RER tout seul, organisez-vous. Et cette grande journée de rencontre donc s'appelle Terre d'espérance. C'est pour bien partager cette espérance que nous pouvons avoir tous ensemble.
Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Alors, s'il n'y en a pas, eh bien, nous nous rassemblons à la fois dans l'offrande pour signifier notre solidarité libre et joyeuse avec le foyer de l'âme qui pourra ainsi remplir ses missions. Et nous nous rassemblons aussi dans le chant. Et comme nous sommes aujourd'hui le dimanche des rameaux, je vous invite à chanter un cantique des rameaux au numéro 195, les strophes 1, 2 et 3. C'est toi Jésus qu'ils ont chanté, nous nous levons pour chanter. Asseyez-vous. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, nous ouvrons notre cœur, notre âme, notre esprit, notre être à ton passage, en nous et entre nous. Si tu discernes un peu de bonté en nous, nous t'en prions, augmente-la par ta grâce. Lorsque notre désir d'être vivant s'affaiblit, ravive-le par ton souffle. Et la créativité en notre cœur, approfondis-la par ta parole. Partout où surgit un espoir de réconciliation, que ta puissance nous unisse. Ta puissance qui ramène, qui accueille, qui relie. Suscite en nous un esprit sincère, la passion de la justice et le courage de nous engager pour elle. Oui, notre Dieu, nous t'en prions, insufflons-nous la vie de ton esprit. Nous aspirons à la justice, nous aspirons à la paix, à la fin des oppressions. Nous voudrions que des chants de soulagement et d'amour se lèvent de l'humanité. Donne-nous assez d'audace et d'espérance pour élever bien haut la flamme de la fraternité là où nous sommes et jusque là où nous pouvons aller. Que ta parole nous libère afin que nous puissions marcher ensemble au milieu des déchirures de ce monde, que nous y proclamions, que nous y vivions la bonne nouvelle de la réconciliation, de la guérison, de ta justice. Et que nous fassions face aux exclusions, au désespoir de toutes sortes, dans la promesse de la plénitude de la vie. Et nous traverserons le désarroi causé par les mépris et par les crises en discernant les signes de l'accomplissement de ton amour. C'est parce que nous y avons déjà goûté d'une manière ou d'une autre, et parce que nous l'espérons ensemble, cet amour de Père, que nous te prions à haute voix ou dans le secret du cœur. Nous te prions ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Jésus le Christ a aimé les fêtes, celles des vendanges et des moissons, celles de Cana pour les jeunes mariés, celles du pain multiplié et partagé, celles de la brebis retrouvée, celles du fils revenu, celles du pécheur accueilli. Et par lui, nous voici appelés, rassemblés et envoyés pour que la volonté de Dieu soit faite, une fête sur la terre comme au ciel. Enfants et parents, jeunes et adultes, nous sommes tous faits pour la fête de la grâce et de l'amour de Dieu. Alors que son Esprit lui-même nous fasse vivre ce que nous sommes envoyés annoncer. Amen.
Thank you.
Amis, frères et sœurs, même lorsque vos pas chancellent, l'amour de Dieu vous accompagne. Même lorsque l'étape de votre chemin est rude, la paix de Dieu vous soutient. Même lorsque votre chemin est escarpé, la joie de Dieu le borde. Dieu vous bénit et vous garde en son amour. Amen.